Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'impact de la pauvreté et des inégalités sur le fonctionnement du capitalisme. Deux livres nous y invitent. L'un est intitulé « Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ?» avec un point d'interrogation. Il est publié aux éditions Atlante et son auteur Gilles Dufresneau est avec nous. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, chercheur associé au CEPI, un des grands centres de recherche d'économie en France. Et le livre que vous publiez porte un sous-titre « Transcender le capitalisme, vaste projet ». L'autre livre dont nous allons parler est intitulé « Rapport sur les inégalités mondiales ». Il est publié aux éditions du Seuil, un travail collectif qui a réuni une centaine de chercheurs. En studio, l'un des coordonnateurs de ce travail de longue haleine. Bonjour Lucas Chancel.
Bonjour Jean-Pierre.
Lucas Chancel, vous êtes économiste, vous enseignez à l'École d'économie de Paris et à Sciences Po. Au cours de cette émission des reportages, nous retrouvons Éric de Salve à Los Angeles, Alice Campagnol à La Paz en Bolivie, Laure Broulard à Nairobi au Kenya, et nous diffuserons une interview que nous a accordée le prix Nobel d'économie 2015, Angus Deaton. Alors c'est probablement quelque chose d'assez difficile, l'émission n'y suffira certainement pas, mais je voudrais vous demander à tous les deux comment définir la pauvreté aujourd'hui dans un pays en développement. Est-ce que cela se réduit au nombre de gens qui vivent par exemple avec moins d'un dollar 25 par jour, Gilles Dufresneau ?
Alors en fait, il y a plein d'indicateurs de la pauvreté, hein. Tout dépend de ce que vous voulez en faire, comment vous voulez le calibrer. Il y a effectivement cet indicateur de la Banque mondiale, on gagne moins de 1,9 dollars par jour. Mais vous avez également des indicateurs qui sont un peu plus pertinents, dans le sens où le PNUD, par exemple, un indicateur qui dit les dimensions, le fait que la pauvreté a un caractère multidimensionnel, où on va aller regarder des indicateurs de santé.
Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies.
Voilà, programme des Nations Unies, voilà. Donc il y a une diversité d'indicateurs.
Lucas Chancel ?
Oui, effectivement, je pense qu'on vient d'une vision, d'une définition de la pauvreté il y a quelques décennies qui était essentiellement fondée sur un critère monétaire et notamment avec les travaux d'Amartya Sen, un élargissement de la définition de la pauvreté pour inclure l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un environnement sain, l'accès à une bonne représentation démocratique. Donc finalement, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que la pauvreté aujourd'hui doit être définie de manière multidimensionnelle, c'est pas quelque chose qui est unidimensionnel.
Alors il y a des phénomènes de pauvreté massive dans les pays en développement, mais ça apparaît aussi, cela existe aussi dans les pays développés. Est-ce que les critères sont les mêmes dans ces deux catégories de pays, Lucas Chancel ?
Alors effectivement, c'est là où finalement la question peut se compliquer un peu, c'est que finalement même dans la définition de la pauvreté, certains pays ont une définition relative de la pauvreté, donc par rapport à un certain seuil, soit une moyenne, soit une médiane du revenu moyen, et donc soit une médiane des revenus dans une société, et donc effectivement on voit que il peut y avoir de la pauvreté dans les pays riches, pauvreté absolue, mais aussi pauvreté relative. Et la pauvreté absolue, on en voit de plus en plus malheureusement aux États-Unis notamment, avec une stagnation complète des bas revenus aux États-Unis depuis les années 80. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais on en voit aussi évidemment en France et en Europe.
Gilles Dufresneau, vous pensez que les pauvres vont révolutionner le 21e siècle ? Vraiment ? C'est le titre de votre livre. Et on a peine à le croire.
Oui. Alors en fait, évidemment, il ne s'agit pas d'une révolution violente. Hein, il faut renverser la table. Mais par évolution, ce que je veux dire, c'est que dans un contexte où le capitalisme est en pleine mutation, peut-être que les pauvres peuvent modifier un petit peu le capitalisme dans un sens qui leur soit un petit peu plus favorable qu'il ne l'a été jusqu'ici. C'est un moment propice parce que chaque fois que vous avez des mutations dans le capitalisme, eh bien, vous avez, les rapports de forces sociaux entre groupes d'acteurs changent.
Lucas Chancel, ce rapport sur les inégalités mondiales dont vous êtes le coordonnateur et dont nous parlons aujourd'hui, est-ce qu'il s'intéresse à la pauvreté ?
Absolument. En fait, il s'inscrit dans cette évolution, finalement assez récente pour les organisations internationales, qui est de dire, finalement, la pauvreté et les inégalités sont deux enjeux qui sont connectés. et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. On ne peut pas mener uniquement une politique de réduction de la pauvreté si les inégalités explosent. D'une part parce que il y a cette définition de la pauvreté qui peut être relative, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autre part parce que si les inégalités sont trop fortes, finalement ça va compliquer la tâche pour réduire la pauvreté. Et ce qu'on montre bien dans ce rapport sur les inégalités mondiales, c'est que selon les différentes tendances prises par les différents pays du monde entre aujourd'hui et 2050, en matière de réduction des inégalités, cela peut avoir des effets considérables sur la capacité des pays, des États, à réduire la pauvreté. Parce qu'évidemment, la manière avec laquelle on va répartir la croissance qui est produite dans les différents pays va avoir un impact qui est considérable sur la réduction de la pauvreté. Donc si les 1% du haut vont capter 90% de cette croissance, eh bien évidemment, il en restera très peu pour réduire la pauvreté, pour faire progresser le bas de la pyramide sociale.
Gilles Dufresneau, vous partagez ce point de vue. Pour lutter contre la pauvreté, il faut d'abord lutter contre les inégalités?
Alors, de manière générale, oui. Il y a quelques petites exceptions, le cas de la Chine par exemple, où là peut-être qu'on est obligé de procéder de manière séquentielle, c'est-à-dire que au départ, quand vous avez plusieurs millions de personnes qui sont en situation de pauvreté, le problème c'est de sortir les gens de la pauvreté, et les questions d'inégalité viennent dans un second temps. Donc c'est ce que la Chine a fait jusqu'ici, depuis les transformations qui étaient opérées avec Deng Xiaoping jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire que peu importe que les inégalités se développent, il faut d'abord
sortir les gens de la pauvreté, il faut d'abord créer du revenu, il faut d'abord créer de la richesse. Et puis ensuite, et donc c'est ce que l'on voit apparaître en Chine actuellement à travers ce concept de société harmonieuse, là maintenant on peut, tout en continuant, parce que la pauvreté a dépassé, enfin, est passée en dessous d'un certain seuil, on peut commencer,
oui,
il y a moins de pauvres, voilà. On peut commencer à réfléchir à comment cette fois-ci continuer à faire ce genre de politique, mais en réduisant les inégalités. Donc le nombre est important, le nombre de personnes que vous devez sortir de la pauvreté joue aussi.
Alors, beaucoup d'économistes américains réfléchissent à la question de la montée des inégalités. L'un des livres les plus connus en France, en tout cas, du prix Nobel d'économie 2015, Angus Deaton, s'intitule « La grande évasion ». Il est sous-titré « Santé, richesse et origine des inégalités ». Angus Deaton était récemment à Paris pour une série de conférences, l'une consacrée à la pauvreté, l'autre à la mortalité et à la morbidité, la faculté d'être malade, des travailleurs blancs américains. Je l'ai rencontré à l'issue de cette conférence, une rencontre très impressionnante, parce qu'Angus Deaton, outre qu'il est prix Nobel, a une taille imposante, une canne, un nœud papillon. Surtout, il a un sens de l'humour corrosif qui se déclenche à la moindre question jugée un peu imprécise. Voilà donc un petit morceau de cet entretien au cours duquel Angus Deaton évoque le sort des travailleurs blancs américains au cours des dernières décennies.
Ce n'est pas une bonne période pour être un travailleur blanc aux États-Unis. Leurs conditions de vie se sont beaucoup détériorées, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient pauvres, parce que les Afro-Américains sont beaucoup plus pauvres que les Blancs. Ce que je pense, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis qui n'ont presque rien et que ces gens-là sont plus nombreux que ce qui est habituellement reconnu. Il faudrait qu'on s'intéresse à eux de près, et bien plus que ce que l'on fait actuellement. Concernant les hommes blancs avec un faible niveau d'éducation, je ne pense pas qu'en tant que groupe, ils s'appauvrissent. Cela dit, leur situation a très peu évolué.
Mais alors, ces hommes blancs peu éduqués qui travaillent, dans quelle catégorie socio-économique les classeriez-vous ? Est-ce qu'ils appartiennent à la classe moyenne ?
Il n'y a pas réellement de définition de la classe moyenne, mais la plupart de ces gens, si l'on s'en tient aux critères américains officiels, n'entrent pas dans la catégorie des gens pauvres. Je suppose que vous pourriez les ranger dans la catégorie de classe moyenne. Vous savez, aux États-Unis, nous n'avons pas de classe ouvrière. C'est un terme qui nous pose problème.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, mais aux États-Unis, contrairement à l'Europe, il y a toujours eu cette conviction qu'il n'y avait pas de classe ouvrière. Tout le monde est réputé appartenir à la classe moyenne. Vous comprenez, soit on est de la classe moyenne, soit on est des pauvres, mais pas de la classe ouvrière.
Les inégalités ont beaucoup augmenté aux États-Unis ?
Pas tellement au cours des dernières années, mais avant, oui. Ce qui se passe pour les hommes blancs qui n'ont pas une bonne formation, et c'est ce que mes recherches démontrent, c'est que leurs revenus baissent régulièrement, et donc leur situation est moins bonne que celle de leurs parents au même âge.
Avez-vous l'impression que les politiques publiques aux États-Unis traitent ce genre de questions?
Non, c'est le contraire. Le Congrès vient de voter une loi fiscale qui donne des sommes d'argent énormes aux gens très riches et rien du tout aux pauvres. Après un siècle de progrès, les Américains blancs de la classe moyenne ont vu augmenter leur taux de mortalité et de morbidité. Il est plausible que cela ait à voir avec la destruction de la vie des travailleurs, dont la cause est la baisse depuis longtemps de leur salaire. Derrière cela, il y a le pouvoir croissant des entreprises. On a l'impression que le vieux monde de la compétition monopolistique est de retour et maintient les payes très bas et les prix de vente très hauts.
Ce qui est frappant dans vos travaux, c'est le contraste entre la dégradation de la situation de ces catégories aux États-Unis et l'amélioration en Europe. Comment l'expliquez-vous ?
C'est la grande question. Personne n'a vraiment la réponse. Mais je pense que le capitalisme américain est beaucoup plus violent que le capitalisme européen et qu'il a été beaucoup plus efficace dans la confiscation des intérêts des gens qui travaillent au bénéfice des grandes compagnies. Jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas en Europe, mais c'est peut-être en train d'arriver.
Est-ce que vous pensez que l'élection de Trump est la conséquence de la férocité de ce capitalisme américain ?
C'est trop fort comme formulation, mais oui, beaucoup de gens ont pensé que la précédente alliance entre Clinton et Obama avait fait très peu pour eux, et ils ont donc estimé qu'il valait mieux casser ça. Je ne crois pas qu'ils aient eu beaucoup d'illusions sur le fait que Trump allait leur faire beaucoup de bien, mais ils étaient assez contents d'avoir tout cassé.
Donc une interview du prix Nobel d'économie 2015, Angus Deaton, je vous ai vu tous les deux prendre quelques notes. Lucas Chancel, qu'est-ce qui attire votre attention dans ce que dit Angus Deaton ?
Plusieurs choses et plusieurs points de commentaires. Donc, effectivement, si on regarde les 40 dernières années aux États-Unis, finalement, c'est pour un peu prolonger le propos d'Angus Deaton sur cette perception des Américains qui se sont dit que l'attelage Obama-Clinton n'allait pas forcément changer grand-chose. Si on regarde sur les 40 dernières années aux États-Unis, on a grosso modo 20 ans de démocrates, 20 ans de républicains. Si on regarde la tendance en matière d'inégalité, en matière de progression du revenu, du patrimoine des 1% les plus aisés, d'un côté, de stagnation du revenu des 50% du bas, puisque nous, c'est ça qu'on montre, qu'on met en avant dans ce rapport sur les inégalités mondiales, c'est que le revenu de la moitié la plus pauvre aux États-Unis a stagné entre 1980 et aujourd'hui. $16 000 en 1980, $16 500 aujourd'hui, quasiment 0% de croissance.
Par an ?
Par an. Par adulte. Donc, on comprend ensuite l'énervement, la frustration collective des Américains vis-à-vis, finalement, de ces deux partis, et ce qui peut permettre à, finalement, un candidat qui a pris position sur cet échiquier à deux partis, mais qui se revendique quand même essentiellement anti-système, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il arrive au pouvoir.
Gilles Dufresneau, vous, cette interview d'Angus Deaton, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Est-ce qu'elle valide votre thèse selon laquelle les pauvres peuvent être le moteur d'un changement
Absolument. On voit bien qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont interpellé dans ce qu'il a dit. La première des choses, c'est qu'on le sait, là aussi, c'est une tendance aux États-Unis, mais aussi dans l'ensemble des pays industrialisés, la part des salaires dans le revenu n'a pas arrêté de diminuer. Ça, c'est vraiment un fait stylisé. Et dans une économie où le salariat est important, puisque vous avez des gens qui travaillent dans des usines, etc., enfin, bon, voilà, la baisse de cette part des salaires d'un revenu, elle a comme effet corollaire que les gens, pour pouvoir survivre, doivent s'endetter. Donc le premier point important, c'est que aujourd'hui aux États-Unis, quand on est pauvre, ça ne veut pas simplement dire qu'on n'a pas de revenus, ça veut aussi dire qu'on est très endetté. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième point important, c'est que les Américains ont un problème de qualification sur une partie de leur population. On a tout fait pour que la Chine, les pays émergents, etc., ouvrent leurs économies, entrent dans le commerce international. Ça a eu comme conséquence une très forte désindustrialisation, c'est-à-dire que les Chinois ont pris un certain nombre de créneaux, de marchés, etc. Une assez forte désindustrialisation dans les pays développés, aux États-Unis, et si vous voulez, ceux qui en ont les pâti les premiers, ce sont ceux dont le niveau d'éducation est moins important que les autres. Et puis le troisième point, une troisième chose qui est importante, la différence entre l'Europe et les États-Unis. Le capitalisme américain est beaucoup plus violent, entre guillemets, que le capitalisme européen, parce que le contrat social n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a une espèce de contrat social sur une idée qu'il y a un bien commun auquel on doit faire attention, qui est la protection sociale. Et ce n'est pas la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que, la solidarité, on va dire ça comme ça, repose beaucoup plus sur l'assistance personnelle que sur quelque chose qui est institutionnalisé. C'est la grande différence avec l'Europe. Mais pour des raisons historiques.
Lucas Chancel.
L'accès égalitaire, alors plus ou moins égalitaire selon les pays, mais à l'éducation, à la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important en Europe, dans toute une partie du nord de l'Europe. En Allemagne, l'éducation est gratuite. Il y a même des bourses pour la plupart des étudiants. En Allemagne, quand certains politiques en Bavière essayent de mettre des frais de scolarité à l'entrée de l'université, il y a un référendum de la population qui s'oppose à ça. Donc, en fait, on est quand même en Europe dans une culture d'accès beaucoup plus démocratique à ces biens publics, à ces biens essentiels qui permettent le développement de chacun. Premier point, donc service public. Deuxième point, régulation du marché du travail, plus fort dans de nombreux pays européens. Un élément de comparaison ici, dans les années 60, le revenu minimum aux États-Unis est le plus élevé du monde. C'est le plus élevé du monde si on compare à l'Europe et à tous les autres pays qui ont un revenu minimum. Entre 1960 et aujourd'hui, ce revenu minimum aux États-Unis baisse de 30%. C'est quelque chose de complètement exceptionnel dans un pays qui a une croissance qui va être extrêmement importante entre 1960 et aujourd'hui. Et le revenu minimum, lui, va baisser. Alors qu'en France, sur la même période, le revenu minimum a fait x3.
Restons aux États-Unis. Paradoxe apparent, dans la première puissance économique mondiale, les écarts de richesse dans ce vaste pays entre les plus pauvres et les plus riches se creusent et la grande pauvreté augmente, on l'a déjà dit dans cette émission. Selon les chiffres du ministère du Logement, cette année, pour la première fois depuis la Grande Dépression de 1929, le nombre de SDF a augmenté au niveau fédéral de 0,7%. En 2017, plus de 500 000 personnes ont passé au moins une nuit à la rue. Et très peu de services publics existent, Lucas Chancel, vous le disiez à l'instant, en particulier pour les SDF. Alors le secteur privé se mobilise comme il peut avec de petits moyens. À San Francisco, dans le centre-ville, des milliers de SDF survivent au pied des immeubles des géants de la tech, comme Spotify ou Twitter. Une ONG a donc eu l'idée de donner des cours de codage informatique à ces SDF pour les faire embaucher par ces grandes entreprises. C'est un reportage Éco-d'ailleurs signé Eric De Salve à San Francisco.
À l'arrière d'une boutique dans un centre commercial de San Francisco, une dizaine d'élèves écoutent un professeur qui leur donne un cours de code informatique.
HTML.
Particularité de ce cours de code un peu spécial, tous les élèves sont ici des sans-domicile fixe. Joseph, la quarantaine, était psychiatre et expert auprès des tribunaux dans une autre vie. Il est devenu SDF en 2011 après un drame personnel et espère s'en sortir grâce à ses cours de code.
En ce moment, j'habite dans un abri. Je suis le genre de personne qu'on n'imagine pas devenir SDF, mais n'importe qui peut devenir SDF à cause des aléas de la vie. Dans la rue, vous avez des gens très diplômés, des gens qui ne se droguent pas, des gens qui ont de l'ambition. Ici, avec ces cours de code, j'acquiers de nouvelles compétences pour redevenir embauchable. Mon objectif, c'est de rejoindre une des grandes sociétés de San Francisco.
Ces cours de code pour sans-abri sont proposés gratuitement chaque semaine par des bénévoles de Code Tenderloin, une ONG fondée en 2013 par Del Seymour, 71 ans, ancien SDF toxicomane devenu sans-abri au retour de la guerre du Vietnam. Après 18 ans dans les rues de San Francisco, cet afro-américain s'en est sorti grâce à une église locale. L'idée de Code Tenderloin lui est venue tout simplement en voyant tous les jours, dans le centre de San Francisco, des milliers de SDF dormir au pied des immeubles de géants multimilliardaires de l'industrie de la tech.
Toutes les grandes entreprises de la tech ont emménagé ici, dans le centre-ville. Dans l'immeuble juste à côté, vous pouvez acheter une montre pour 1,7 million de dollars. Et pourtant, des gens dorment dans des tentes à 10 mètres d'ici. Prostitution, drogue, extrême pauvreté, juste à 10 mètres, c'est fou. C'est pour cela que j'ai créé Code Tenderloin, l'une de nos premières étudiantes. Les étudiants travaillent maintenant à Microsoft, ils l'ont embauchée. Elle gagne 80 000 dollars par an.
code, Tenderloin assure avoir redonné un emploi à une soixantaine de SDF de San Francisco qui en compte plus de 7000. L'ONG est aujourd'hui soutenue par des géants comme Microsoft ou Twitter. En 2016, son fondateur, ancien SDF, a même été invité à la Maison Blanche par Michelle Obama.
Un reportage signé Eric De Salve à San Francisco. On essaye de recréer un espèce d'ascenseur social dans cette Amérique des contrastes sociaux terribles, Lucas Chancel.
Qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait? C'est l'idée selon laquelle on va réussir à régler une grande partie du problème à travers l'éducation, à travers un accès finalement plus démocratique à l'éducation. Et c'est vrai que c'est une dimension extrêmement importante du problème aux États-Unis, cet accès inégalitaire à l'éducation. Les travaux notamment d'Emmanuel Saez, de Raj Chetty sur les inégalités éducatives sont extrêmement nous montre extrêmement bien que il y a un gradient social très fort aux États-Unis entre le revenu des parents, le patrimoine des parents et la probabilité d'accéder à l'éducation supérieure et au collège de qualité. Donc là, il y a une relation presque de 1 à 1 entre votre position sociale et finalement, est-ce que vous allez ou pas accéder à l'université. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ce type de discours. Où on voit pointer quand même derrière toujours ce mythe méritocratique américain où il suffit d'être bien éduqué finalement pour que tout fonctionne. Or, c'est pas aussi simple que ça. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il faut aussi un encadrement du marché du travail pour que finalement on se retrouve pas avec des gens qui soient bien diplômés, mais qui aient d'une part plein de dettes et d'autre part des salaires extrêmement faibles, ce qui est le cas pour une bonne partie aujourd'hui des jeunes Américains qui sortent de l'université. Donc finalement tout ça m'amène vers quoi? Vers une autre dimension du débat qui est à mon avis essentielle, qui est comment est-ce qu'on finance tout ça de manière juste? Pour financer un système public d'éducation où finalement on ne va pas créer des endettés, il faut une fiscalité forte et qui est juste.
Gilles Dufresneau, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, vous l'intégrez à votre raisonnement sur les bouleversements économiques que ces pauvres peuvent générer?
Dans les inégalités, il y a ce que l'on appelle en économie les inégalités d'opportunité. Ça veut dire que tout le monde doit avoir les mêmes chances d'arriver à faire quelque chose un jour. Et donc, évidemment, ça passe par l'éducation. Et ce que fait cette ONG, c'est qu'elle essaie en quelque sorte de pallier à l'absence, on va dire, de qualification des personnes en question. Quelque chose qui permet de réduire les inégalités d'opportunité, c'est aussi les réseaux. Le plus souvent, quand vous êtes pauvre, eh bien, vous êtes tout seul. Il n'y a pas de lien social, vous n'avez pas de capital social. Alors, donc, ça...
Comment pouvez-vous intégrer ce modèle américain de la pauvreté à votre raisonnement et penser que les pauvres peuvent révolutionner le XXIe siècle, alors qu'aux États-Unis, c'est le 1% le plus riche qui a le pouvoir? Où voyez-vous des éléments aujourd'hui qui valident votre analyse?
Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans une société où l'information a tendance à se diffuser très rapidement. On a des progrès considérables en ce qui concerne le numérique, Internet, etc. Et donc, de plus en plus, l'éducation se démocratise. C'est-à-dire que les grandes écoles, les grandes universités, etc. mettent à la disposition du grand public, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, n'hésite pas à diffuser leur savoir. Après, donc, ce qui va compter, c'est l'effet de signal, c'est-à-dire qu'une entreprise, pour vous embaucher, eh bien, elle a besoin de savoir quel est le capital humain que vous avez. Donc, si vous êtes allé à l'école, si vous êtes allé à l'université, là, c'est garanti. Si vous vous êtes formé sur le tas, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, c'est le réseau qui joue.
Lucas Chancel.
Oui, je pense qu'il y a déjà des exemples extrêmement intéressants aux États-Unis avec des universités qui sont publiques et qui permettent un accès beaucoup plus important des classes populaires, des populations afro-américaines à l'université. Je pense à City University à New York, par exemple, qui est une université où il y a plus de 40% des étudiants qui sont issus de populations défavorisées. Je pense à l'université de Berkeley, par exemple, où finalement il y a une représentation sociale qui est beaucoup plus mixte qu'à Harvard, où le revenu moyen des parents des étudiants correspond au revenu moyen des 1% les plus riches de la population américaine. Donc il y a déjà des exemples aux États-Unis qui peuvent être amplifiés, qui peuvent être développés.
Donc on subvertit le capitalisme par ces procédés-là ?
En fait, on dépasse, j'aime bien ce mot de transcender, on dépasse progressivement
transcender,
le système.
C'est le sous-titre du livre.
Voilà, on dépasse progressivement le système actuel pour passer d'un système insoutenable à un système qui est beaucoup plus soutenable sur les différentes dimensions du bien-être dont on a discuté au début de l'émission.
Gilles Dufresneau nous parlait tout à l'heure de l'endettement des gens les plus pauvres aux États-Unis. L'une des raisons de cet endettement, c'est le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation qui est dénoncé dans cette chanson que nous allons écouter maintenant de Carmen Maria Vega, Sans rien.
Mets ta crème de soin, écran plat, coin carré, merci, Kofi, Noga, Ikea et ED, rayon jeux vidéo, c'est toi le héros en quatre fois sans frais, si tu dis s'il te plaît, tu es déjà bien dans. Tu te retrouves. Donne-moi du temps qui vient. Donne-moi envie d'être demain. Allons-nous tendre le poing. J'ai tout sur le cœur et rien dans les mains. Sans rien, sans rien. Inflation, TVA, profit, pouvoir d'achat, autographe et photo, poignée.
Carmen Maria Vega, une chanson qui s'appelle « Sans rien », qui décrit à peu près ce dont on parle aujourd'hui, puisqu'on parle pas mal de gens qui n'ont rien. Deux invités dans ce studio pour parler de ces gens qui n'ont rien ou pas beaucoup. Gilles Dufresneau, pour son livre « Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ?», publié aux éditions Atland. Et Lucas Chancel, pour deux livres « Insoutenables inégalités » paru l'an dernier aux éditions du Petit Matin et « Le rapport sur les inégalités mondiales », donc le même thème, qui est lui paru aux éditions du Seuil. Au Kenya, mettre l'Internet à la portée de tous est un souci. On continue à parler de cet accès à la connaissance. L'entreprise POA Internet, partenaire de l'opérateur Liquid Telecom, veut relier au web ceux qui ne le sont pas et qui sont très nombreux. Grâce à une technologie sans fil, bien meilleur marché que la fibre optique, POA Internet apporte le web à Kibera et Kawangware, deux bidonvilles de Nairobi, la capitale kenyane. Les Kenyans les plus pauvres ont ainsi accès au réseau mondial. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laure Boulard à Nairobi.
Les clients se pressent dans le magasin de Georges Aubois. Sur le toit, une antenne et une petite pancarte violette indiquant POA. Cette boutique compte parmi les dizaines de points d'accès Wi-Fi publics de Kawangware. Dans un rayon de 100 mètres, les passants peuvent se connecter à l'Internet illimité via leur smartphone pour moins de 10 centimes de l'heure.
Au début, j'ai mis un banc là devant pour qu'ils puissent s'asseoir. Mais j'ai dû l'enlever parce qu'il y avait beaucoup de gens qui bloquaient l'entrée.
Beaucoup de Kenyans n'ont pas d'accès régulier à Internet, en cause des prix trop élevés ou l'absence de réseau dans certaines zones. Pourtant, la demande est forte, explique Georges.
Maintenant, toutes les formalités administratives se font en ligne. Vous ne pouvez pas faire autrement. Les permis de conduire, les passeports, les transferts de véhicules, tout.
Poa Internet place ses antennes dans des lieux très visités, comme des écoles, qui profitent alors d'un accès gratuit. Autre formule proposée, le Wi-Fi directement à la maison et à prix cassé. Andy Halsall, PDG de Poa Internet.
Nous installons une antenne sur le toit du client qui est connecté à notre réseau Wi-Fi sur le quartier. Nos points d'accès Wi-Fi publics sont eux aussi connectés à un réseau Wi-Fi très puissant que nous avons construit. Et même ce réseau est alimenté via de la technologie sans fil. C'est bien moins cher et bien plus simple que l'installation de la fibre qui requiert la pose de câbles. Mais si la technologie a un rôle, le plus important dans notre modèle, c'est la formule proposée aux clients, une formule qui correspond aux besoins particuliers des clients que nous ciblons.
Et ce qui fait la différence, dit-il, c'est bien l'Internet illimité et non au mégaoctet, à l'instar de Safaricom, le principal opérateur du pays, qui détient près de 80% de parts de marché. Depuis que sa mère a le Wi-Fi à la maison, Jaydan, 9 ans, peut davantage surfer sur le web.
Je n'ai plus à aller au kiosque pour acheter du crédit Internet sur mon téléphone. Maintenant, j'utilise seulement le Wi-Fi.
Et qu'est-ce que tu fais sur Internet ?
Je vais sur YouTube, Instagram, Facebook et d'autres.
Quant à Immaculate Wadia, en charge des ventes chez Poa, elle assure que le succès est au rendez-vous.
Nous avons actuellement 24 000 utilisateurs. Parmi eux, 1 500 ont souscrit au Wi-Fi à la maison. Et je dois dire que ce chiffre croît très rapidement par rapport à ce qu'on voit dans le secteur.
La direction assure avoir doublé le nombre d'abonnements à la maison ces 3 derniers mois et prévoit d'atteindre son seuil de rentabilité en étendant ses services à d'autres zones du Kenya.
Un reportage signé Laure Broulard à Nairobi. Gilles Dufresneau, dans votre livre, vous appelez de vos voeux une révolution frugale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, une révolution frugale, ou des innovations frugales, c'est le fait qu'on a la possibilité dans un pays pauvre ou alors dans un pays riche quand on a peu de moyens de créer des innovations qui sont adaptées, ciblées aux besoins, à ce dont les gens ont besoin. L'exemple du Kenya qui est dans le reportage est un excellent exemple. Le Kenya est un des pays d'Afrique qui commence à avoir un certain nombre de politiques dans ce sens, tout simplement parce qu'ils ont compris que l'accès à Internet, c'est un service public qu'il faut rendre aux gens, parce que ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Il y a beaucoup d'enfants kényans qui naissent aujourd'hui qui ne sauront jamais de leur vie ce qu'est une banque, parce que ça coûte cher de mettre en place des infrastructures, etc. Mais c'est pas un problème parce que le Kenya est en train de résoudre ce problème grâce justement au Wi-Fi, etc. À travers ce qu'on appelle le M-Pesa, c'est-à-dire que tous les Kenyans ont un portable et la monnaie, finalement, c'est de la monnaie électronique. Et donc, ça permet, où que vous soyez, où que vous habitiez, de pouvoir payer votre journal, du sucre, du riz, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Donc, il y a une notion de frugalité dans le sens où, eh bien, on voit bien que cette nouvelle technologie, elle est adaptée. C'est pas quelque chose de... On n'en voit pas des fusées sur la Lune, elle est adaptée précisément oui. aux besoins des personnes.
Mais pardonnez-moi, Gilles Dufresneau, mais cette histoire de M-Pesa, c'est en quelque sorte devenu une tarte à la crème, puisque c'est l'exemple qu'on donne systématiquement quand on parle du développement par la base en Afrique.
Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres exemples ?
Il y a plein d'autres exemples. Le Internet permet aux gens de trouver beaucoup plus facilement du travail. Vous avez des applications au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, dans le pays d'Afrique, donc de mettre en contact des entreprises et puis des travailleurs. Ça permet également, par exemple, de mieux soigner les gens. Vous êtes quelqu'un, vous habitez dans un village, vous n'avez pas la possibilité de payer des soins, mais vous avez quelqu'un à Paris ou dans la capitale qui, lui, pourrait payer des soins. Eh bien, il y a des plateformes qui existent et qui permettent d'avoir accès aux soins. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Il y a énormément d'exemples de ce type-là.
Lucas Chantel, vous croyez à cette notion de révolution frugale ?
Absolument. Alors, je pense qu'il y a pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant, important dans ce reportage, dans ces exemples. C'est l'idée selon laquelle la réduction de la pauvreté en Afrique, en Amérique latine et ailleurs ne peut pas se faire par des formules pensées à Washington, à Paris ou à New York. Et là, il y a quand même vraiment, je pense, une révolution dans la manière dont on traite le problème, où on se dit, c'est vraiment l'importance de l'intelligence locale. Premier point. Deuxième point, sur la frugalité, il y a une opportunité et un risque immense dans cette réduction de la pauvreté dans le monde. Le risque, c'est quoi? C'est que finalement, on va réduire la pauvreté mondiale, on va réduire les inégalités mondiales, mais en même temps, on bousille la planète. Ça, c'est le risque. Et ce risque est bien identifié. Et d'ailleurs, on n'a pas encore complètement résolu la solution. C'est-à-dire qu'en fait, la réduction de la pauvreté passe par puiser davantage dans les ressources naturelles, utiliser davantage d'énergie, réduire la biodiversité pour créer de l'agriculture qui est plus productive. Donc ça, c'est le risque. Maintenant, l'opportunité, c'est d'apprendre des erreurs du passé, et de faire notamment des solutions ici sans fil, où on voit finalement que utiliser moins de fil, bah, c'est utiliser moins de matière. Je vais vous donner un autre exemple à Kibera, qui est l'un des plus grands, ou si ce n'est le plus grand bidonville d'Afrique.
Il y a un autre
au Kenya, à Nairobi, qui finalement, Nairobi a un autre problème qui est celui de la gestion des déchets humains notamment, des excréments et du coup l'une des solutions, c'est de finalement utiliser ces déchets, de les transformer en biogaz et d'utiliser ce biogaz qui est sain, qui est devenu sain par le processus de biodigestion, pour utiliser ça pour faire de la cuisine, pour se chauffer et pour cuisiner. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois une technologie finalement locale qui permet de réduire le problème des déchets sur place et qui permet en même temps d'accéder à l'énergie, et tout ça en réduisant l'impact sur les émissions de CO2. Donc là, on a vraiment une solution qui est extrêmement intéressante et qui permet de réduire la pauvreté tout en protégeant l'environnement.
Transcender le capitalisme, c'est ça, c'est le sous-titre de votre livre, oui. Gilles Dufresneau. Mais est-ce que c'est ça, transcender le capitalisme?
Transcender le capitalisme, selon moi, ça veut dire faire en sorte que le capitalisme n'engendre pas de façon systématique des déséquilibres, parce que notre tendance actuelle, vous savez, le capitalisme a produit beaucoup trop d'hypertrophie. Vous avez deux types d'hypertrophie. Vous avez d'un côté peut-être une masse de pauvres, qui augmente, des inégalités que l'on a du mal à faire baisser. Et puis de l'autre côté, une hypertrophie qui est caractérisée par un très grand productivisme, le fait qu'on a une hypertrophie du secteur financier, etc. Et donc transcender le capitalisme, c'est trouver une solution pour avoir un juste milieu pour que notre manière de fonctionner soit socialement soutenable. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors, le progrès technique peut nous y aider si on fait attention.
Mais là, vous ne parlez, peut-être parce que les reportages y sont consacrés, que d'Internet. Il n'y a pas d'autre utilisation de technologie frugale que vous décriviez dans votre livre?
Si, vous avez, par exemple, en matière de... Vous savez que beaucoup de pays pauvres ont des problèmes d'accès à l'énergie et de conservation, par exemple, des produits alimentaires, etc. Il y a actuellement un certain nombre d'innovations frugales pour inventer des frigidaires un peu spéciaux en Inde, des frigidaires en argile ou ce qu'on appelle des frigidaires portatifs qui permettent de on n'a pas besoin d'avoir un réseau électrique extrêmement développé. Bon, ça c'est un...
Effectivement, je pense que la révolution énergétique fait partie de ces innovations frugales qui permettent à des pays finalement de se déconnecter de l'emprise des pays producteurs de pétrole dont on est dépendant quand on n'a pas de pétrole, quand on n'a pas de gaz et de matières premières. Et ça, on le voit donc sur l'exemple de la production de biogaz à partir de déchets humains, sur les frigidaires, il y a toute une révolution en cours dans de nombreux pays sur l'efficacité énergétique, en Afrique du Nord notamment, en Inde aussi, dans d'autres pays d'Asie. Il y a aussi l'accès à l'énergie solaire. Donc tout ça, c'est vraiment, ça participe d'une révolution qui permet de réduire l'utilisation des matières premières et de l'énergie, qui permet de réduire les coûts, qui permet d'être plus productif. Et finalement, qui nous emmène vers une autre forme de système productif et de système de consommation. Maintenant, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on peut faire cette révolution tout en perpétuant finalement l'extrême concentration du capital qu'on observe aujourd'hui. Il y a deux manières de faire cette révolution énergétique, c'est de reproduire de nouveaux géants, et ça peut être demain les géants de la donnée, Ça peut être demain les géants de ceux qui détiennent ces nouvelles technologies.
Le big data.
Le big data, ou voilà, les nouvelles technologies. Maintenant, effectivement, là, on parle quand même de technologies assez simples. Donc, finalement, qui n'appartiennent à personne. Donc là, sur les droits de propriété, c'est assez bien diffusé. Mais on peut faire cette révolution de telle sorte que, finalement, il y a une déconcentration du capital. Et on peut la faire de telle sorte qu'on continue sur les tendances qu'on observe aujourd'hui. Donc, il faut être vigilant sur ce qu'on veut et sur ce qu'on va mettre en place en œuvre dans les années qui viennent.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, sur RFI, nous parlons de la pauvreté, des inégalités à travers les livres de Gilles Dufresneau et de Lucas Chancel qui sont avec nous. Alors, Lucas Chancel, vous préconisez dans le rapport sur les inégalités mondiales de lutter contre les inégalités sociales par le bas. Peut-être que ce qui se passe en Bolivie, à La Paz, où des tireurs de chaussures se mettent à écrire et vendre un journal où ils racontent leur vie, en ferait partie. C'est pari un peu fou de l'association Hormigón Armado, béton armé en espagnol. Cette organisation existe depuis 2005. L'idée vient d'une revue anglaise, The Big Issue, et poursuit le même but, lutter contre la pauvreté de ceux qui vendent ces journaux. C'est un reportage éco d'ici, éco d'ailleurs, signé Alice Campagnol à La Paz.
Señorita, contamos con tu apoyo, señorita.
Sur une avenue passante de La Paz, Cassiano vend la revue Hormigón Armado. Pourtant, Cassiano n'est pas vendeur de journaux, mais cireur de chaussures. Si sa voix est un peu étouffée, c'est parce qu'il porte un passe-montagne, l'accessoire des cireurs, pour ne pas être reconnu. Car le métier est très mal vu ici, en Bolivie, associé à la drogue, à l'alcool et à la délinquance. Mais surtout, et ça, ce n'est pas un préjugé, ce métier est associé à la pauvreté. Cassiano raconte son parcours.
Ma mère est morte, elle est décédée. Donc j'ai dû commencer à cirer des chaussures. Mon père, lui, s'est mis à boire. Et moi, j'avais trois petites sœurs, j'étais l'aîné. Donc pas le choix, il fallait que je cire des chaussures, enfin, que je les prenne en charge, quoi.
Aider ceux qui ont peu, avec peu de choses, c'est le pari de l'association Hormigón Armado, dont fait partie Cassiano. Au siège de l'organisation, Juan Pablo Villalobos, qui travaille ici, explique.
L'Hormigón Armado leur offre une source alternative de revenus, le journal. Mais pour pouvoir vendre la revue, ils doivent participer à des ateliers de toutes sortes. Des ateliers de photographie, de cinéma, mais aussi des ateliers sur la sexualité, de leadership ou l'entrepreneuriat. Dernièrement, l'association a pris de l'ampleur et nous avons d'autres programmes comme les visites. Nous offrons des bourses d'études également.
Et d'ailleurs, en une du journal de ce mois-ci, il y a Esther. Esther, elle aussi, est cireuse. Et si on la connaît, c'est parce qu'elle est également guide touristique formée par l'association. Esther gagne 10 euros par personne pour 2 heures de visite, contre 7 euros en moyenne pour une journée entière à cirer des chaussures. Le calcul est vite fait. De retour avec Cassiano qui a réussi à écouler quelques journaux. Pour lui, la vente de la revue double son salaire hebdomadaire. Plus d'argent donc pour lui qui a un bébé de 2 ans, mais la vente du journal lui a permis bien plus.
Las primeras veces no tenía miedo de vender. Que más me ha apoyado el hormigón más que todo.
Les premières fois, j'avais vraiment peur de vendre le journal. L'association, elle, m'a appris à vendre, à convaincre les gens, et ça, c'est vraiment bien quand on peut aller plus loin dans la vie. Quand on ne se contente pas de sa petite boîte à cirage.
Et le rêve de Cassiano, celui d'être un jour tailleur, est prêt de se réaliser car, grâce à l'association, il a pu prendre des cours de couture et cette année, il obtient son diplôme.
On souhaite bonne chance à Cassiano dans ce reportage d'Alice Campagnol à La Paz. Cette révolution frugale dont on parlait, vous en voyez une nouvelle démonstration, là, Gilles Dufresneau ?
Complètement, complètement. Ce que l'on voit très clairement dans ce reportage, c'est que finalement, la résolution de la pauvreté peut passer par des solutions bottom-up. Bottom-up, ça veut dire qu'on part du bas, on part du concret, du terrain, par les acteurs individuels, et là, on trouve un certain nombre de solutions. Donc finalement, ces cireurs de chaussures qui deviennent journalistes, en quelque sorte, ce sont des micro-entrepreneurs. Ils font de la micro-entreprise qui sont épaulés par des gens qui ont du savoir-faire dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est important, c'est le fait que c'est une approche qui est inclusive. Alors, vous savez que les organisations internationales, bon, on a ce qu'on appelle de quelque chose d'inclusif, mais un peu différemment de ce qu'entend la Banque mondiale habituellement, parce qu'habituellement, quand on parle de développement inclusif, on veut dire que les autres font pour les pauvres de façon à améliorer leur niveau de vie. Là, la notion d'inclusivité, c'est que ce sont les pauvres qui font pour eux-mêmes, donc qui participent en fait à leur propre changement.
Tout ce que vous dites m'inspire deux remarques. D'abord, quid des politiques ? Là, on abandonne toutes les politiques publiques. Et deuxièmement, ça ne menace en rien la répartition des richesses. Ça n'améliore pas la lutte contre les inégalités, Lucas Chancel.
Merci Jean-Pierre Boris pour faire ce point extrêmement essentiel. Et j'allais justement revenir là-dessus et essayer de réconcilier, de reconnecter l'approche qu'on voit là, c'est-à-dire une approche bottom-up, du bas vers le haut, micro, de solutions locales, ciblées, frugales, et l'approche macro.
Qui macroéconomique.
Est macroéconomique, donc l'importance de la puissance publique pour permettre l'accès à des services qui sont essentiels, infrastructures de transport, de santé, éducatives. Reprenons l'exemple de la Chine, dont on a parlé au début de l'émission, ouais. Qui est le pays, au cours des 30 dernières années, qui a le plus réussi dans cette réduction massive de la pauvreté. Pourquoi ? Comment ? Essentiellement par des investissements extrêmement importants sur les infrastructures de transport, d'éducation, de santé, des populations rurales, notamment. Et ici, c'est vraiment une volonté politique qui a été impulsée du haut, qui a permis cela. Et si vous voulez, il me semble que dans le cas des exemples qu'on a vus au Kenya, en Amérique latine, dans le dernier exemple, c'est important de pas se dire que l'approche locale, l'approche micro pourra suffire. Il faut en même temps penser à la provision de ces services publics et qui est-ce qui va les financer. Juste un point qui est issu du rapport sur les inégalités mondiales, un enseignement extrêmement essentiel, c'est quoi ? C'est que depuis 1980, les 1% les plus riches au niveau mondial ont capté deux fois plus de croissance que l'ensemble de la moitié la plus pauvre de la population. Depuis 1980, sur tous les nouveaux euros, les nouveaux yuan, les nouveaux roupies qui ont été créés, il y en a deux fois plus qui ont été captés par les 1% du haut que par les 50% du bas. La conclusion de ça, c'est qu'en fait, on aurait pu faire beaucoup mieux dans la réduction de la pauvreté s'il y avait eu une meilleure répartition de cette nouvelle croissance. Et ça, comme vous le disiez, on peut pas faire une meilleure répartition de ces croissances uniquement par cette approche micro, cette approche locale qui est nécessaire, mais il faut lui accoler une approche de politique publique, une approche de fiscalité juste pour financer les services publics qui vont permettre aussi d'aller plus vite dans l'avènement de cette approche locale et de cette approche micro.
Gilles Dufresneau, la révolution frugale, ça ne suffit pas. Donc, ça sera le mot de la fin, brièvement.
Oui, ça ne suffit pas, évidemment. Il faut des politiques publiques. Juste pour dire qu'en Amérique latine, justement, un certain nombre de gouvernements, notamment en Bolivie, considèrent que parmi les politiques publiques, le rôle de l'État, c'est aussi d'encadrer, c'est-à-dire de faire en sorte que cette économie solidaire se développe. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il y a des biens publics, les routes, l'électricité, etc. Et ça, le financement peut se faire uniquement, effectivement, par la puissance publique.
Oui. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Je voulais parler, Lucas Chancel, du cadastre financier mondial que vous proposez. Ça sera pour une autre émission, puisque Écho d'ici, Écho d'ailleurs est maintenant terminé. Je vous rappelle les titres des ouvrages dont il a été question dans cette émission. Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle, signé Gilles Dufresneau aux éditions Atlantes, et Rapport sur les inégalités mondiales, ouvrage collectif publié aux éditions du Seuil, dont l'un des coordonnateurs, Lucas Chancel, était dans ce studio. Un autre livre, Insoutenables inégalités, toujours de Lucas Chancel, aux éditions du Petit Matin. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, à l'onglet émission sur www.rfi.fr. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.